Laudetur Jesus Christus.
Les chefs de l'Union européenne réunis à Kiev pour le troisième anniversaire de l'invasion russe. Le président Volodymyr Zelensky appelle à un échange de tous les prisonniers de guerre avec Moscou. Des milliers de civils sont détenus par la Russie. Témoignage du nonce apostolique en Ukraine à suivre. Le conflit à l'est de la RDC a coûté la vie à plus de 7000 personnes depuis janvier, selon la première ministre. Des milliers de Congolais se sont réfugiés au Burundi voisin, qui peine à les accueillir dignement, nous l'entendrons. Vers la création d'un gouvernement parallèle au Soudan après la signature d'une charte par les paramilitaires des forces de soutien rapide en guerre ouverte avec l'armée. Et puis le Liban se dit épuisé par les guerres des autres sur son territoire après les obsèques hier de l'ex-chef du Hezbollah tué par une frappe israélienne et soutenu par Téhéran.
Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
Bonjour à tous. Un anniversaire douloureux et honteux pour toute l'humanité. Les mots du pape François pour qualifier les 3 ans de l'invasion russe de l'Ukraine dans son texte écrit rendu public hier pour l'Angélus en raison de son hospitalisation prolongée. À l'occasion de cet anniversaire, le président Volodymyr Zelensky appelle à un échange de tous les prisonniers de guerre avec la Russie. Une mesure indispensable avant d'envisager tout dialogue selon le dirigeant ukrainien. Les prisonniers civils sont les grands oubliés de ce conflit, souligne le nonce apostolique Monseigneur Visvaldas Kulbokas dans une interview accordée à la rédaction ukrainienne de Radio Vatican.
Je partirai d'un exemple pour souligner ce qu'est la guerre et du récit d'une personne, une civile d'une 60aine d'années qui a été retenue prisonnière en Russie pendant presque 3 ans. Elle m'a raconté qu'elle a traversé une période très difficile au cours de laquelle elle a été privée de sommeil pendant plusieurs semaines, ce qui est un moyen de torture. Et elle disait que rien que cet aspect, le fait de ne pas pouvoir dormir pendant 2 ou 3 semaines, génère une grande difficulté. Elle ne parvenait plus à comprendre qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait. Qu'est-ce qui correspond à la réalité? Qu'est-ce qui est fantaisie ou suggestion? Elle ne se rappelle même plus ce qu'elle a signé, car souvent, au cours des interrogatoires, il est demandé aux prisonniers de signer des documents. Donc ça, c'est le monde dans lequel se trouvent plusieurs milliers de personnes. Et jusqu'à présent, moi-même, je n'ai trouvé aucun moyen efficace qui puisse fonctionner. Et à nouveau, je confie la situation de ces milliers de prisonniers dans une situation désespérée à la prière de tous. Car seul le Seigneur Tout-Puissant peut donner de l'espérance contre toute espérance, comme le Saint-Père lui-même l'a écrit dans la bulle d'indiction du jubilé.
Des propos recueillis par Svitlana Dukovic. Sur le volet diplomatique, Kiev accueille une dizaine de dirigeants internationaux ce lundi pour un sommet destiné à réaffirmer leur engagement en faveur de l'Ukraine. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, y a annoncé une nouvelle aide de 3,5 milliards d'euros à l'Ukraine. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté de l'Atlantique, le président français et le président américain doivent s'entretenir ce lundi. Emmanuel Macron est arrivé dimanche soir à Washington pour présenter à Donald Trump des propositions d'action pour conjurer, je cite, la menace russe en Europe. Et puis autre rapprochement en cours sur ce dossier, celui entre Pékin et Moscou. Les deux dirigeants chinois et russes ont échangé par téléphone ce lundi. Xi Jinping a notamment salué les efforts de la Russie pour résoudre la crise en Ukraine. Parallèlement, on apprend que le consulat général de Russie à Marseille, dans le sud de la France, a été visé ce lundi matin par des jets de bouteilles suivis de détonations, sans faire ni dégâts ni blessés. Une enquête a été ouverte. Le ministère russe des Affaires étrangères a aussitôt dénoncé une attaque terroriste. C'est un autre conflit au cœur des prières du pape, celui à l'est de la RDC. Le mouvement du M23 soutenu par le Rwanda contrôle désormais militairement Goma et Bukavu, ainsi que l'ensemble du lac Kivu. Des milliers de réfugiés congolais ont fui vers les pays voisins, parmi lesquels le Burundi. Selon l'ONU, 40 000 réfugiés congolais sont sur le sol burundais, un nombre conséquent pour ce petit pays d'Afrique de l'Est. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés appelle tous les partenaires à accompagner le pays en vue de répondre à la crise humanitaire en cours. La correspondance d'Alain Désiré Boukienesa.
C'est depuis ce samedi que le premier convoi de ces nouveaux réfugiés ont été relocalisés vers le site de Musenyi en province Rutana, au sud-est du Burundi, tout proche de la Tanzanie. Le ministère de l'Intérieur a indiqué la semaine passée que le but étant de garantir leur sécurité. Ainsi, de nouveaux sites doivent être alloués au HCR afin de loger ces réfugiés qui ne cessent d'affluer. La représentante du HCR a indiqué mercredi que c'est la première fois depuis les années 2000 que le Burundi accueille un grand nombre de réfugiés en un peu de temps et d'appeler des intervenants en ce domaine d'appuyer l'organisation en réponse aux besoins spécifiques de ces réfugiés. Selon le site de l'ONU, le HCR enregistre un besoin de 40 millions de dollars en vue de répondre aux besoins de plus de 270 000 déjà déplacés de la RDC et faire face à un possible afflux de plus de 250 000 personnes. Avec le début du mois de février, le mouvement M23 contrôle les villes de Goma et Bukavu et certaines localités du nord et du sud Kivu. Bujumbura, Alain Désiré Bukeneza, Radio Vatican.
Le Soudan toujours plus fragmenté. Ce week-end, les paramilitaires des forces de soutien rapide et leurs alliés en guerre ouverte contre l'armée soudanaise ont signé une charte fondatrice d'un gouvernement parallèle. De son côté, le gouvernement pro-armée a amendé la constitution, pour établir une législature islamique. Deux visions du pays qui s'affrontent. Les précisions d'Augustine Passy.
Ce dimanche, le gouvernement de facto du Soudan a publié des amendements à la constitution de 2019 qui avait été rédigée après le renversement du dictateur Omar el-Béchir. Ce document était devenu obsolète non seulement depuis le coup d'État d'octobre 2021 qui a mis fin à la transition démocratique, mais aussi car une des principales composantes, la coalition des forces pour la liberté et le changement, qui devait par exemple sélectionner un premier ministre, a tout simplement disparu du paysage politique. Le nouveau texte prolonge la période de transition de 39 mois, élimine le comité d'enquête sur le massacre intervenu lors de la dispersion du sit-in révolutionnaire et renforce la représentation militaire au sein du Conseil de souveraineté. Le retour au principe de la législation islamique est également acté. De leur côté, les forces de soutien rapide et leurs alliés ont signé dans la nuit de samedi à dimanche une déclaration politique qui prévoit, elle, la formation d'un État laïque. Cette opposition quant à la place de la religion dans ce pays à forte majorité musulmane rappelle la sécession du Soudan du Sud en 2011, dont les deux tiers chrétiens de la population étaient discriminés par la dictature militaro-islamiste de Khartoum. Addis Abeba, Augustine Passy pour Radio Vatican.
Le Liban ne veut plus de guerre des autres sur son sol. Déclaration du président Joseph Aoun hier à des officiels iraniens venus à Beyrouth pour assister aux funérailles de l'ex-chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, tué par une frappe israélienne en septembre dernier. Des dizaines de milliers de personnes venues de tout le Liban se sont rendues à Beyrouth pour un dernier hommage au chef emblématique du groupe islamiste chiite libanais soutenu par Téhéran. Le guide suprême iranien ainsi que le nouveau chef du Hezbollah ont promis de poursuivre la résistance à Israël. À Beyrouth, Paul Khalife.
L'enterrement qualifié par de nombreux médias de plus grand rassemblement jamais organisé au Liban a eu lieu en présence de délégations et de personnalités venues de 80 pays. 4000 soldats et policiers libanais et 25 000 militants du Hezbollah ont été déployés pour assurer la sécurité de l'événement. Au-delà de l'hommage à son chef historique, le parti chiite a voulu montrer que ses capacités de mobilisation restaient intactes malgré les coups durs qu'il a reçus pendant la guerre. Le Hezbollah a voulu aussi prouver à sa base très éprouvée par la guerre et à ses ennemis, Israël en tête, qu'il dispose encore d'importants moyens pour organiser cet événement d'une ampleur sans précédent. Dans un discours retransmis en direct sur des écrans géants, le chef du Hezbollah, Naïm Hassem, a réaffirmé l'attachement du parti chiite à la résistance contre Israël et à la cause palestinienne. Après un vibrant hommage à Hassan Nasrallah, Naïm Hassem a juré de rester fidèle au principe de son compagnon d'armes et a demandé à la foule immense rassemblée à l'intérieur et autour de la cité sportive de prêter serment en ce sens. Le chef du Hezbollah a dénoncé la poursuite de l'occupation israélienne de certaines portions du territoire libanais, mais a déclaré que le Hezbollah donnerait sa chance à la diplomatie. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
Et toujours dans la région, le secrétaire général de l'ONU s'est dit gravement préoccupé lundi par la montée de la violence en Cisjordanie et les appels à l'annexion. Israël a annoncé dimanche avoir expulsé des dizaines de milliers de Palestiniens de 3 camps de réfugiés au nord de la Cisjordanie occupés dans le cadre d'une vaste opération menée par l'armée depuis un mois. Et puis avant de clore ce journal, un mot pour vous dire que le pape poursuit son traitement à l'hôpital. Le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin présidera la prière du rosaire ce soir à 21h sur la place Saint-Pierre à Rome. Une manière de manifester la proximité de l'Église avec le pape et les malades, a souligné le directeur de la salle de presse du Saint-Siège. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre écoute. Retour de l'actualité en langue française à 18h heure de Rome. Bel après-midi à toutes et à tous en attendant.